Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous amenez aujourd'hui en Europe centrale. Qu'est-il arrivé à la Pologne et à la Hongrie pour que ces pays, hier désireux d'intégrer l'Union européenne, se soient mis à la dénoncer comme une nouvelle prison des peuples?
Eh bien, réponse dans un essai publié ces jours-ci par Anne Applebaum, éditorialiste et historienne américaine. Elle est notamment l'auteur de deux ouvrages impressionnants, Goulag, une histoire, la meilleure histoire des camps de concentration soviétiques à ce jour, pour laquelle je l'ai d'ailleurs interviewée sur France Culture il y a quelques années, ainsi que Rideau de faire, comment l'Europe de l'Est fut écrasée, qui raconte la manière dont les partis communistes, sur ordre de Staline, ont imposé leur dictature après la guerre à l'Europe centrale, soi-disant libérée par l'armée rouge. J'aurais pu la croiser au St. Anthony's College qu'elle venait de quitter quand j'y suis rentré moi-même en 1992 en tant que Mid-Career Fellow. Cette américaine y était venue travailler sur l'histoire de l'Europe centrale au lendemain de l'émancipation de ces pays de la tutelle soviétique et plus précisément, comme mon voisin de chambre d'alors, l'historien Timothy Snyder, sur la Pologne. Le séminaire de Timothy Garton Ash au St. Anthony's College était le point de convergence de tous les universitaires et journalistes qui se passionnaient pour ces pays d'Europe centrale et orientale. Nous étions toute une génération à avoir rêvé d'une unification, d'une réunification de l'Europe sous le signe des Lumières, des droits de l'homme et de la démocratie. La démocratie pluraliste et constitutionnelle. Pas la caricature qu'avaient offerte les soi-disant démocraties populaires à parti communiste unique d'Europe centrale et orientale. Notre bulletin de liaison, c'était la revue Lettres internationales qu'animait depuis Paris le français Paul Noirot et le tchèque Antonin Lim. Elle existait dans plusieurs langues européennes et y diffusait des textes écrits par les meilleurs esprits de l'époque, qu'ils soient hongrois, slovènes, allemands, italiens ou polonais. Mais le gouvernement français de l'époque n'a pas jugé son intérêt suffisant pour sauver financièrement cette revue alors qu'il en a subventionné tant d'autres, tellement moins nécessaires. Conscient des limites intellectuelles et morales dans lesquelles le pragmatisme et l'économisme dépourvus d'horizon avaient plongé nos propres sociétés occidentales, nous attendions de l'Europe centrale un supplément d'âme, un ressourcement, une piqûre de rappel des valeurs les plus authentiquement européennes. Des peuples qui avaient pu donner des héros modestes tels que Václav Havel, Adam Michnik, Jacek Kuroń devaient disposer de ressources morales épuisées chez nous. Ces hommes seuls et sans autre arme que le rappel de principes avaient tenu tête à des régimes plus ou moins totalitaires au nom des plus hautes valeurs européennes. Nous avions besoin d'eux. De leur côté, ils voulaient à toute force retourner en Europe. Et c'est à les y aider que nous avons œuvré les uns et les autres. Je suis parti vivre en Pologne en 93. Anne Applebaum, de son côté, a consacré son intelligence et sa formidable capacité de travail à défendre la cause de l'Europe centrale aux États-Unis. Mais dès 1987, elle avait mis sa vie privée en accord avec ses idées, si j'ose dire, en épousant Radosław Sikorski, un jeune dissident exilé alors en Grande-Bretagne. Il est devenu depuis ministre des Affaires étrangères de Donald Tusk, puis le président de la Diète polonaise.
Mais précisément, Brice, depuis que le parti Droit et Justice domine en Pologne, ce genre de personnalité s'inquiète du tournant illibéral pris par leur pays.
Oui, énormément. Et Anne Applebaum ne cache pas son amertume. Dans un article publié ce mois-ci dans la revue The Atlantic, elle règle ses comptes avec certains de ses anciens amis polonais passés au service du parti Droit et Justice, ainsi qu'avec d'autres hongrois qui se sont compromis, eux, avec Viktor Orban. Son long papier s'ouvre sur la grande fête qu'elle-même et son mari avaient organisée pour la Saint-Sylvestre 1999 dans le manoir ayant appartenu à la famille de son mari, racheté et en partie restauré par eux. Il y avait là une centaine de personnes appartenant à ce qu'on appelait à l'époque et en Pologne « la droite », parce qu'ils avaient combattu le régime communiste. Mais ils professaient des idées libérales. Ils croyaient à la démocratie, au règne de la loi, à la liberté de la presse, à l'indépendance de la magistrature, et ils voulaient intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Qu'est-il arrivé à la moitié d'entre eux qui aujourd'hui collaborent à des régimes qui en appellent au règne sans partage de la majorité, pratiquent la mainmise du pouvoir sur les médias et la purge politicienne des juges? Des gens qui considèrent à présent l'Union européenne comme une nouvelle prison des peuples. Bref, comment passe-t-on en 20 ans, comme Orban lui-même, du libéralisme à un conservatisme xénophobe? Eh bien, réponse demain.
Eh bien, rendez-vous demain, cher Brice.